Bonjour, je suis Sylvain Desmentis. Vous écoutez le Club Desmentis. Aujourd'hui, oh mes frères, on se parle de Orange Mécanique avec mes deux drugs, Maps. Bonjour, Maps. Et Jean-François Ouellet. Bonjour.
Salut.
Alors, on se parle de ce livre, L'Orange Mécanique d'Anthony Burgess, qui est paru dans les années 60. Et là, j'ai pas fait attention. 72, pardon, 1972. Et ça raconte l'histoire essentiellement d'un. En fait, ça raconte l'histoire de vous rentrez à la maison, vous vous rendez compte que votre beau petit chaton a fait des dégâts partout avec ses griffes. Là, vous décidez d'aller le faire dégriffer. Puis là, ben après, vous vous faites un chum, une blonde, puis là, whoop, elle est allergique aux chats, donc vous êtes obligé de vous en débarrasser, puis là, vous le relâchez dans la nature, mais là, il n'y a plus ses griffes, fait qu'il ne peut plus se défendre. Essentiellement, c'est l'histoire d'Orange Mécanique. Autrement dit, c'est l'histoire d'Alex, qui est un adolescent très violent, qui va commettre des crimes avec ses amis, qui va aller dans un bar laitier, puis dans lequel on mixe des choses un peu bizarres dans le lait. Et ça va lui donner l'envie de commettre des crimes. Il va commettre plusieurs crimes, principalement des entrées par effraction. J'ai
Infraction.
oublié le, ouais, c'est ça, j'ai oublié le terme en français.
Invasion de domicile.
Invasion de domicile, merci. Donc, il va commettre des invasions de domicile, des meurtres, des viols, et puis il va se faire éventuellement arrêter. Puis il sera choisi pour une nouvelle technologie, une nouvelle expérience qui va faire en sorte qu'il va être dégoûté, absolument dégoûté par toute forme de violence et aussi par la musique classique. Et puis, ensuite, il sera relâché dans la nature. Mais là, s'il est dégoûté par la violence, il n'a plus de moyens de se défendre. Donc, on a lu ça ensemble ce mois-ci. C'est d'ailleurs la conclusion de notre saison de dystopie britannique. Et là, je veux savoir qu'est-ce que vous en avez pensé, mais là, j'ai placé les choses en désordre. Moi, j'ai envie de commencer avec Jean-François. Qu'est-ce que tu as pensé
Yes.
de l'Orange Mécanique?
Orange Mécanique, moi, c'était à la base, je pensais pas qu'il y avait de livre. J'ai toujours cru que c'était un film de Kubrick, un grand film du cinéma, mais jusqu'à tant qu'on décide de faire l'épisode sur le livre, j'étais pas au courant qu'il y avait un livre, dans le fond. C'était une belle surprise quand Sylvain, tu m'as appris ça. C'est devenu vite quelque chose que je voulais lire, dans le fond. Et d'entrée, il y a quelque chose qu'on remarque rapidement quand on lit L'Orange Mécanique, c'est le vocabulaire, puis la façon que c'est écrit. Alex et ses amis ont un slang très propre à eux, jeunot un peu. Ils inventent des mots, c'est des twists, des fois peut-être tongue twister un peu même. C'est pratiquement chanté. Et c'est l'impression que j'ai eue en lisant Clockwork Orange, dans le sens où, au début, bon, t'es un peu rebuté par ça, parce que, tu sais, c'est dans chacune des phrases, c'est très, très répétitif. Ils réutilisent souvent les mêmes tournures de phrases, tu sais, c'est pratiquement limité comme vocabulaire, même si c'est riche, mais c'est voulu. Et c'est ça, puis dans l'édition française, il y a comme un glossaire à la fin, là, ajouté par ceux qui ont traduit le livre, mais dans la version originale, il n'y a pas ça. Tu es supposé un peu te débrouiller dans cet univers-là qui est le langage d'Alex parce que c'est lui le narrateur et on est comme un peu dans sa tête. On est comme un personnage de la bande, si on veut. On est avec ces gars-là au travers de leur délit, de leur crime. T'sais. Mais ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Qu'on finit par s'habituer. Un coup que tu as fait une petite run dans le glossaire, puis tu regardes les mots qu'ils utilisent, les mots inventés qui reviennent le plus souvent, ça devient facile de les décoder. Puis là, un coup que tu es habitué, quand je dis que c'est chanté, j'avais vraiment beaucoup cette impression-là au défiler les pages. ça, la sonorité de ce langage inventé-là, je l'aimais beaucoup. Mm-hmm. Là, c'est en contradiction avec ce que ça raconte, parce que c'est ultra violent. C'est très, très cru dans sa violence aussi. Mais là, prenez mes mots à la légère, dans le sens où j'ai trouvé que ça l'allégeait, la violence, de la façon que c'était raconté. Mm-hmm. Puis ouais, je pense que si c'était pas dans leur vocabulaire puis leur slang un peu, si on était... on était en connaissance avec un narrateur omniscient, mettons, quelqu'un qui est là puis qui fait juste décrire avec une écriture comme pas normale, mais tu sais, comme, je sais pas, littéraire, admettons, ce serait beaucoup plus difficile de traverser ce livre-là, puis ça en deviendrait pratiquement désagréable, je pense. Puis là, au contraire, moi, j'ai défilé là-dedans comme si c'était pratiquement un conte de fées, mais d'horreur à cause de cette liberté-là narrative puis littéraire que Burgess a pris pour raconter l'histoire. T'sais. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. C'était challengeant en même temps, mais de ces thématiques, ça reste quand même simple. T'sais. C'est un peu le combat éternel du bien contre le mal, essayer de... Est-ce qu'on peut avoir une rédemption? Est-ce que ça peut venir de l'extérieur ou c'est comme nos propres choix qui vont influer selon nos actions, tu sais? C'est ça qu'on va découvrir avec Alex au fil du roman, parce que il va traverser plein d'épreuves, si on veut. Mais lui-même, au final, en dedans, est-ce qu'il va changer ou non? C'est un peu l'enjeu du livre, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de personnages, mais en même temps, on reste principalement avec Alex dans sa tête. Fait que ça, c'est un développement psychologique qui est comme vraiment profond, je trouve. Comme le personnage, on vient qu'à le connaître beaucoup, tu sais. Fait qu'on se pose beaucoup de questions par rapport à son développement, parce que est-ce qu'on y croit? Est-ce que c'est vraiment, tu sais, l'institution qui est le test qui va traverser? Est-ce que ça marche vraiment ou est-ce qu'il se veut comme... Il n'est pas changé vraiment. Il y a plein d'enjeux comme ça qui sont le fun à découvrir. Mais c'est pas pour les. C'est pas un livre qui est facile d'approche, par contre, parce que ça reste très, très cru puis violent. Puis, t'sais, mettons, je sais pas si je prends ça du fait que j'écoute beaucoup de films d'horreur, je lis des livres d'horreur. Fait que ça devient un peu plus. Pas plus léger, parce que c'est pas léger du tout, mais vous comprenez ce que je veux dire par là, dans le sens comment que c'est raconté. Je trouvais que ça l'allégeait le tout pour rendre ça un petit peu plus digeste comme lecture, si on veut. Mais non, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, Orange Mécanique, honnêtement.
Moi, je trouve ça drôle que tu dises que c'est peut-être peu accessible à cause de la violence. Puis moi, c'est drôle parce que la première chose qui me vient en tête quand je pense à ce livre-là qui serait peut-être possiblement peu accessible, c'est plus le vocabulaire que, ouais. que la violence. Mais
un coup passé, les premiers chapitres, je trouve que ça devient pratiquement comme plus là. C'est comme le cerveau, il s'habitue à ces tournures de phrases-là, puis tu viens qu'à connaître le sens des mots. C'est ça qui est le génie un peu de Burgess dans son écriture, c'est que c'est instinctif. Comme le premier, deuxième chapitre est comme « Ouh, ça sera pas facile », puis au final, à un moment donné, tu viens qu'à plus y penser. Tu n'as pratiquement plus besoin d'aller dans le glossaire, dans le fond, tu sais. Fait que ça m'a challengé, puis c'est un gros des points positifs que j'en retire. C'est le fun que j'ai eu à lire, tu sais, physiquement les mots ensemble, pour en faire cette espèce d'histoire sordide-là, un drôle de personnage. Là, t'sais.
Excellent. Et Maps, qu'est-ce que tu as pensé?
Les jeux sont faits. Est-ce que vous voulez faire une prédiction?
Moi, j'ai bien peur que tu n'as pas aimé ça, là, mais au moins tu l'as fini.
Je l'ai fini. Toi, Jeff, qu'est-ce que tu en penses?
Pardon?
Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que j'ai aimé ou que...
On dirait, après Crash, je pense que tu as peut-être plus aimé ça que Crash.
Je l'ai fini déjà. C'est bon.
Tu sais, mettons, j'aurais tendance à dire que tu as quand même aimé, mais là, est-ce que tu as vraiment aimé? Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas.
OK. Mais les garçons, mon avis sur l'Orange Mécanique, j'ai détesté ça. OK. Mais il y a comme, je vous dirais que tout au long, tu sais, j'ai trouvé le vocabulaire, j'ai trouvé ça, comme tu disais, le challengeant. Moi, je suis ben trop paresseuse pour aller dans le glossaire, OK? Si tu me fais travailler en plus que je suis déjà en train de te lire, forget me. Mm-hmm. Fait que, tu sais, mais je trouvais que malgré tout, ce que ça faisait, puis je comprends pourquoi, tu sais, ça semble moins violent, c'est que j'avais une idée globale de ce qui se passait, mais pas spécifique. Tu sais, je savais qu'il donnait des coups, qu'il donnait des taloches puis tout ça, mais j'avais aucune idée vraiment comme de l'ampleur puis de où est-ce qu'il faisait ça sur son corps, parce que c'était un mot que je comprenais pas. Tu sais, il y a 2 à 3 mots qui nous sont inconnus par phrase. Fait que, tu sais, je trouve que ça amoindrissait vraiment beaucoup la violence, tu sais, créée, faite par cette gang-là. Tu sais, oui, l'impact. Tu sais, c'était pas très descriptif d'un certain sens parce qu'on n'avait pas accès, à moins que tu regardais le glossaire, là, puis que tu faisais un effort vraiment plus soutenu. Ouais. Mais tu sais, sans faire cet effort-là, tu sais, j'étais comme, OK, je comprends qu'il est dans une maison, qu'il y a une madame, qu'il y a des chats, tu sais, qui va y faire mal, qui y fait mal, mais comme, tu sais, il n'y avait pas le sang qui giclait, il n'y avait pas des mots, tu sais, qu'on est habitué de lire pour nous faire peur ou, tu sais, nous mettre dans une ambiance glauque. Fait que, tu sais, comme ça passait plus facilement de ce sens-là. Mais moi, j'étais quand même curieuse d'où est-ce que ça s'en allait, tu sais, forcément. Là, au début, j'étais comme, OK, il donne des taloches partout. Lorsque j'ai su qu'il avait comme 15 ans, j'étais comme, tu sais, je pensais que c'était un gars de 19, 20 ans, là, tu sais, jeune adulte. Mais, tu sais, 15 ans, je trouvais ça intense. Puis, lorsqu'on est allé comme en institut, tu sais, essayer de retravailler son cerveau. Puis là, je me posais vraiment la question, tu sais, qu'est-ce que ça allait donner? Une de mes grandes déceptions, c'est que ça a duré comme 2 pages. Puis après ça, il était redevenu lui-même. Il n'y a comme pas vraiment eu d'explication à cette transition. Fait que ça, j'étais comme tout ça, toutes ces heures de torture pour qu'il arrête de faire la violence, pour que ça passe vraiment rapidement. Puis là, je ne veux pas faire de divulgacheur, mais la fin fait en sorte, je me suis tellement sentie dans « ce n'était qu'un rêve ». Mais comme, mais tabarnak, t'es pas sérieuse que j'ai lu ça pour que, waouh, il va devenir un homme puis il va arrêter d'être violent, ce qu'ils nous font peut-être croire, là. Le reste à voir si c'est ça. Mais ça, ça a été la goutte qui a fait déborder mon phrase. J'étais comme, j'ai pas lu tout ça pour que tu me dises que c'est juste que c'est un jeune ado qui est bien, bien violent puis qui va changer en étant homme parce qu'il veut une femme puis des enfants. Ça.
On pourra en discuter de cette fin-là. Je veux juste saluer Magali qui dit « Ah, je suis pas surprise que t'aies détesté ça. »
Oui, je voulais mettre un petit peu de tension.
Ouais, le suspense, c'était cool.
Avec ça, c'est comme mon avis. Tu sais, je pense pas que tout au long, je l'aurais pas terminé si ça avait été une torture tout au long, mais je trouve que comme les twists de la fin m'ont vraiment fait questionner l'effort que j'avais mis dans ce livre-là, tu sais. J'étais comme, j'ai lu, j'étais investie, je trouvais que les idées étaient bonnes, puis je me suis vraiment sentie comme let down. Il m'a pris, puis il était comme, oh ben, bye là! J'étais comme, ben, c'est vraiment pas fin.
Mais en fait, il y a un peu, une espèce de controverse par rapport à ce livre-là. C'est que quand il a été publié, en fait, c'est un livre des UK, de britannique. Et quand il a été publié aux États-Unis, ils ont retiré le dernier chapitre. Donc, et puis quand Stanley Kubrick a adapté le roman, il l'a adapté de la version américaine, donc sans le dernier chapitre. Et le film, honnêtement, on a déjà parlé de Stanley Kubrick, on a parlé de Shining, puis on disait à quel point il avait pris des libertés, puis il avait fait sa propre affaire. Mais avec Orange Mécanique, il a comme fait le contraire. Il est vraiment très près du texte, de l'histoire. Tu sais, au mot près, là.
Ouais.
La narration est clairement tiré du livre. Puis, en fait, c'est ça, la version américaine et le film finissent avec la phrase « Pour ce qui est d'être guéri, je l'étais », en voulant dire qu'il a été, en fait, il a sauté par la fenêtre et puis finalement, il a guéri de son espèce de traitement en choc.
Mm-hmm.
Puis le dernier chapitre n'existe pas dans ces deux versions-là. Le dernier chapitre étant, bon, mais maintenant, il est guéri, il a des nouveaux amis, il peut encore commettre la violence, mais ouais. Il choisit éventuellement de ne pas le faire. Puis moi, je suis un petit peu ambigu entre laquelle des deux fins est la meilleure, parce que j'aime bien l'idée que, tu sais, lui, dans sa tête, là, c'est positif, ça finit, ah, oh, je suis guéri, donc je peux faire de la violence encore. Je trouve que c'est vraiment très dark comme ouais. fin. Puis, d'un autre côté, j'aime bien aussi l'idée que, ben finalement, c'est comme si c'était une crise d'adolescence. Là. C'est comme si c'était un trip d'adolescent que finalement, tu vieillis, puis tu deviens plus mature, puis tu fais que, oh, ben non, mais c'est plus des choses dont j'ai envie. Et il y a aussi un aspect dont on n'a pas parlé, mais qui est vraiment là, mais en retrait dans le récit, c'est la manipulation. En fait, c'est le gouvernement qui a main prise sur cette expérience-là, qui veut enrayer la violence. Puis en fait, c'est un peu ça l'histoire de ce livre-là. C'est est-ce que le gouvernement, ben, en fait, est-ce qu'on aurait raison de retirer la volonté des gens? Donc, est-ce qu'on aurait raison de changer les gens pour qu'ils cessent d'être violents? Mais comme effet secondaire, c'est qu'après ça, ben, ils n'ont plus le choix, ils n'ont plus le libre arbitre.
Mm-hmm.
Donc, je trouve ça intéressant. Puis, dans cette fin-là, je ne sais pas si c'était voulu, mais dans cette deuxième fin-là, moi, c'est un peu ça que je voyais. C'est un petit peu comme, est-ce que ce ne serait pas le gouvernement qui aurait trouvé une façon de faire changer les gens sans qu'ils s'en rendent compte ou tout ça pour arriver à leur imposer le désir. En fait, c'est la société autour d'eux qui impose un certain désir de se marier, avoir des enfants puis être tranquille. Mm-hmm. Puis c'est un désir qui a été imposé à un de ses amis du début, là, qu'il recroise, puis il est bien heureux d'être en famille, puis il a arrêté ça, la violence, puis tout ça. Et un autre spoiler, mais c'est un club de lecture. Je n'ai pas fait mon avertissement habituel, mais on spoil en masse dans notre podcast. Il y a aussi le fait qu'il recroise un autre de ses amis qui est devenu policier, qui a été engagé par la police. Donc, la délinquance maintenant, ou la violence, et maintenant les forces de l'ordre. Donc, oui. Il y a ça aussi qui est intéressant. C'est ça. Moi, j'ai été un peu... C'était une drôle de période pour moi parce que cette semaine, j'ai été malade. Donc, j'ai eu de la fièvre. Donc, ça a été un petit peu particulier. Je l'ai commencé en français, puis après ça... C'est peut-être Magali, justement, qui nous écoute. Il y a quelqu'un sur Instagram, je m'excuse à l'avance, j'oublie c'est qui, mais il y a quelqu'un sur Instagram qui a posté le texte, la première page en français et en anglais, puis les noms sont pas pareils, puis la traduction, je me suis mis à douter de la traduction, en fait. Puis là, ben, je suis allé chercher en anglais pour le lire en anglais. Fait que je l'ai lu en anglais. Cette édition-là, d'ailleurs, c'est une édition restaurée. Il y a le glossaire, même si c'est en anglais. Il y a le glossaire dedans, il y a des dessins, des trucs d'extra qui n'étaient pas dans l'édition originale. Mm-hmm. Oui, c'est toi. OK. Ben, Magali confirme que c'était bien elle. Donc, c'est ça. Moi, je suis allé chercher la version anglaise après avoir vu ça, parce que moi, les traductions où on change les noms, puis ça me gosse. Puis honnêtement, j'ai navigué un peu entre les deux, puis... Je l'aime beaucoup moins, la traduction française. Il y a des trucs que je trouvais un peu... à un moment donné, quand il révèle son âge, puis ça, c'est un peu un punch, là, on le dit comme ça, mais la façon que c'est révélé, c'est après énormément de scènes de violence. Puis oui, ouais. Qu'il soit comme jeune adulte. Puis finalement, en français, il dit « Je n'avais pas encore passé 15 ans. » Mais en anglais, il dit... attends, je vais le retrouver parce que ça vaut la peine, là. Ce ne sera pas très long, j'arrive. Il dit Enemy still only 15. Fait que, tu sais, il y a 16 ans, il y a 15 ans confirmés en anglais, puis en français, de la façon que c'est formulé, ouais. On laisse croire
qu'il l'est pas encore.
14 ans, mais qu'il l'a pas encore. Fait que ça me gosse, là. Tu sais, moi, je sais, la traduction, c'est un art, c'est compliqué, puis surtout quand il y a énormément de langage inventé, je comprends, c'est compliqué, mais moi, je veux avoir l'information de l'auteur.
Ouais.
Je veux savoir ce que l'auteur est.
Initial, qui voulait... Son intention.
C'est son intention, c'est ça.
Ouais.
Fait que je l'ai lu un peu en anglais, puis là, pour revenir à ce que je disais, j'avais de la fièvre. Puis, tu sais, je l'ai lu dans des journées où, tu sais, quand t'es malade, puis tu dors 2 heures, tu te réveilles 2 heures, tu dors 2 heures.
Ouais.
Fait que c'était comme un rêve, là, que je lisais ce livre-là. C'était un peu surréaliste. Puis en plus, il y avait le vocabulaire. Le vocabulaire qui... Moi, je l'avais déjà lu, ce livre-là, à l'adolescence, là, quand j'ai vu le film... il y a bien longtemps, puis j'avais lu le livre, puis je me souvenais que j'avais pas eu besoin du glossaire, que j'avais fait comme, ben, tu sais, je comprends, là, j'ai moi et mes 3 drugs, puis non, mais tu sais, je comprends que drugs, c'est ami, puis tu sais, j'étais capable de comprendre le sens sans nécessairement comprendre chacun des mots, tu sais. Mais là, cette fois-ci, je sais pas, cette fois-ci, j'étais allé voir une couple de fois dans le glossaire, il y a quelques mots, entre autres, j'ai pas trouvé comment c'était traduit en français, mais il y a une expression qui revient vraiment souvent, qui est « horror show ». Puis, tu sais, quand il arrive, puis c'est ça, là, il fait une invasion de domicile, puis c'est un « horror show ». Puis ça revient vraiment souvent. Puis là, je suis allé voir dans le glossaire, juste pour le fun, qu'est-ce que ça voulait dire. Puis ça veut juste dire « good ». Ça veut juste dire comme « ah, c'est bien
oh. ».
Je trouvais ça tellement bon qui disent comme « horror show ». Tu sais, je pensais qu'ils décrivaient comme la violence de qu'est-ce qui est en train de passer. Non, non, non. C'est juste le fun.
Pour lui, c'est juste le fun.
C'est ça. Je trouvais ça vraiment très cool. Puis, c'est ça. Fait, il y a quelques petits trucs comme ça qui m'ont fait sourire. Puis, le vocabulaire, comme vous l'avez dit, on s'habitue. Moi, j'avais l'impression d'entendre un Gen Z, là, tu sais.
Ouais, ouais.
Ouais, je comprends. Là.
Franchouillard aussi. Là,
ouais.
Ça fait pas québécois, là. Ça fait très...
Ben, c'est comme inspiré. C'est comme... En fait, ben, en français comme en anglais, là, c'est comme si le vocabulaire entre les mots qu'on comprend pas, c'est comme si c'était trop poli, trop mature. Il dit « Oh, mes frères, votre humble narrateur. » Tu sais, il est comme... C'est pas du vocabulaire d'adolescent. Là. Puis après,
mais c'est très fake aussi, tu sais. C'est très manipulateur. Dans le fait, c'est comme... C'est le personnage, là, je veux dire, sa personnalité est comme ça. Tu sais, il va comme amadouer la personne pour la laisser baisser sa garde. Puis après ça, il va pouvoir justement user de violence envers elle. Là. Fait que c'est comme un... Puis pour ramener, tu sais, tantôt à la... La finale, c'est un peu l'évolution d'Alex. C'est quand il rencontre ses amis qui ont comme vieilli pendant que lui était interné, puis qu'il a vécu ces changements-là, mais qui n'était plus vraiment lui-même. C'est quand tu vas rencontrer ses anciens amis qu'il va se rendre compte peut-être qu'il est temps pour lui de laisser derrière des comportements qui étaient un petit peu... Tu sais, j'ai le mot en anglais, là, empowering, quand tu es en gang, le mouvement de gang où ce que tu te sens plus fort que ce que tu es réellement. Mais comme après ces années-là d'être interné, retravaillé par l'institution, le gouvernement, tout ça, Alex, il est seul, il est plus aussi puissant. Fait que, tu sais, mettons, même s'il est de retour, il est guéri, mais cette violence-là le représente un peu moins parce qu'il y a l'exemple de ses amis qui le suivaient qui ont passé à autre chose, tu sais. Fait que ce côté-là, moi, j'ai beaucoup aimé la finale, au contraire de Maps, tu sais. C'est le côté un petit peu... Je suis prête à laisser l'amour entrer en moi pour m'illuminer puis laisser la violence derrière. Puis ça se passe, oui, rapidement, puis peut-être maladroitement, comme en fait trop rapidement, mais je pense que c'est ça que ça veut amener. C'est comme OK, je me libère de ces péchés-là pour essayer d'imiter ce qui est bon autour de moi à la place. Tu sais. C'est un peu le take que j'en reprenais, même si c'est dur à croire avec ce que, tu sais, mettons les 200 premières pages du personnage. Là, tu sais.
Moi, je pense que c'est ça mon problème. Ben, là, je veux pas être une prof vraiment cynique, là. Mais tu sais, comme, est-ce qu'on peut changer tant que ça? Tu sais, un enfant qui fait de la grosse violence, je parle pas des larcins mineurs, là, tu sais, on parle de la grosse violence, là, comme tuer du monde, violer du monde. Tu sais, si c'était juste détruire des maisons, tu sais, le matériel versus l'humain, c'est, pour moi, il y a deux choses là, dans l'acte et dans la portée. Mais tu sais, je suis comme, est-ce que je peux croire qu'un garçon de 14-15 ans, d'où vient cette violence là, on partira dans le psychologique, on n'a pas vraiment de clé par rapport à ça. Mais tu sais, comme, est-ce que je peux croire que le temps fait changer les choses, tu sais?
En fait, l'ouverture, elle est là, mais on n'a pas la suite, tu sais. C'est un peu ça, c'est l'espèce de comme, ah, on vous laisse en suspens par rapport à la suite de la vie de ce personnage-là, mais elle n'est pas là, tu sais.
Ben là, t'as vraiment un bon point. C'est ça. C'est pas parce que il y a une différence entre l'intention puis la réalité, puis c'est pas parce qu'un personnage a l'intention
Vrai.
de changer de vie qu'il va nécessairement le faire. Mais il y a aussi un autre truc qui, moi, me plaît un peu, c'est de voir le côté sombre de cette fin-là, c'est de me dire, attends, là, il n'a pas changé de vie parce qu'il a réalisé que le crime, c'est mal. Il veut changer de vie parce que il s'ennuie, il trouve ça plate à cette heure, puis ça ne tente juste plus. Tu sais, il n'est pas devenu une meilleure personne, là.
Quand il
Il est
délaisse
juste
ses nouveaux
tanné.
amis, tu sais, puis il lui dit, ah, à soir, moi, je file pas pour ça.
Ouais, c'est
Donc, comme,
ça.
ah, tu sais, non, mais je vais juste prendre mon chemin, puis prenez le vote. Puis c'est un peu comme ça c'est dans sa psychologie, il y a peut-être quelque chose qui est en mouvement, mais on le sait pas parce que c'est vraiment la fin du livre, mais tu sais, il y a quelque chose qui bouge, qui vient de lui-même et non de l'extérieur, tu sais, comme le gouvernement l'essayait de le changer, mais c'est de le rendre malade envers la violence parce que c'est comme pratiquement une répulsion physique et non de sa propre décision. Tu sais, il essaye de faire le mal pendant qu'il est comme guéri, mais il tombe malade, fait qu'il veut, il le fait pas parce qu'il veut se sentir physiquement bien, tu sais. Mais là, après, dans les derniers chapitres, tu as comme une espèce de mouvement psychologique dans sa tête. Puis on est dans sa tête avec lui. Fait que, tu sais, on est comme le seul qui est témoin de ça, si on veut. Puis on ne sait pas où est-ce que ça va aller, mais il y a quelque chose qui est différent du début, mais qui vient juste d'Alex et non de son environnement autour. Puis ça, c'est intéressant, tu sais.
Oui. J'ai trouvé ça, particulier comme expérience de relire ce livre-là. J'ai aussi revu le film, puis je veux en parler quand même un peu. C'est ça. J'ai été surpris en revoyant ce film-là. Ça, c'est un film de Stanley Kubrick. Moi, Stanley Kubrick, c'était mon réalisateur quand j'étais ado, ou un de mes réalisateurs. Et ça faisait vraiment longtemps que je ne l'avais pas vu. Puis tu sais, je me souvenais, j'ai une petite anecdote là, pour la première fois que j'ai vu ce film. J'étais chez des amis. Mes amis m'ont dit, ah, t'as pas vu Orange Mécanique, on est allé louer au Club Vidéo, vous dire à quel point ça fait longtemps. Après ça, on est descendu dans le sous-sol pour regarder le film. Puis en descendant dans le sous-sol, la mère de mon ami a dit, bon ben, bon festival de la violence gratuite. Puis là, je suis descendu, puis là, j'ai regardé le film. Puis après avoir vu le film, je me suis dit, mais il me semble que s'il y a un film où la violence n'est pas gratuite, c'est bien ce film-là. S'il y a un film où la violence sert un propos, c'est bien ce film-là. Tu sais, c'est pas. J'aime les slashers, là, mais on s'entend que des slashers, généralement, c'est beaucoup de violence gratuite. Là. Mais là, il me semble que s'il y a un endroit où la violence servait l'histoire, servait le propos. Puis, tu sais, après ça, quand tu le relis, puis quand tu revois le film, chaque scène est importante parce que chaque crime qu'il fait a un lien,
Reviens.
tu sais, ça revient.
Ouais.
Ouais. Je faisais un peu un miroir entre ce film-là et Eyes Wide Shut parce que Eyes Wide Shut aussi, c'est pas un film sur la violence, c'est un film sur globalement sur la sexualité. Mais en fait, c'est que c'est ça, c'est un gars qui se fait dire par sa femme que elle aurait pu le tromper à un moment donné. Il y a eu un moment dans leur vie de couple où elle aurait pu le tromper. Puis lui, il part avec ça, puis il est comme atteint, il se dit, oh mon Dieu, je suis vraiment moins certain de la solidité de mon couple. Puis là, lui, il part avec le désir de tromper sa femme. Puis là, il va faire plusieurs rencontres, puis ça va le mener à un endroit vraiment dark. Et puis le lendemain, à cause de certaines révélations, à cause de certaines choses qui se passent, il se retrouve à refaire le même parcours et à revoir les mêmes personnes. Puis, il y a comme les conséquences de ce qui s'est passé la veille. T'sais. Puis, c'est ça, je trouvais que Orange Mécanique faisait déjà ça. Il y a déjà une espèce de retour parce que chacun des crimes qu'il commet, il y a des conséquences. Ça revient le hanter d'une façon ou d'une autre. Puis, je trouve ça bien pensé, bien fait. C'est un petit livre. Puis, il y a vraiment beaucoup de choses. Là. T'sais, comme je disais, il y a le Oui, le gouvernement qui fait des expériences sur lui, mais il y a aussi la sous-intrigue de son ancienne victime qui veut renverser le gouvernement. Donc, il utilise Alex pour montrer que c'est une victime du gouvernement actuel. Puis, il y a toute cette affaire-là qui n'est pas surexpliquée, mais qui est là comme en arrière-fond. Puis, il y a vraiment, en fait, c'est ça que j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans ce livre-là, desquelles on peut partir, puis réfléchir, puis voir. Mais c'est un tout petit livre, là. C'est vraiment un tout petit livre, puis chaque événement, chaque scène a sa nécessité, tu sais.
Chaque chapitre est important, puis tu soustrais un chapitre, puis il y a quelque chose qui va pas après, là. Comme le dernier. T'sais, tu disais, tu savais pas laquelle des fins entre, mettons, la version américaine et la version british. Mais moi, je défends vraiment beaucoup le fait que ce dernier chapitre-là est hyper important dans l'ouverture que ça peut créer du personnage. T'sais. Puis pas que je suis comme Go Alex, Rédemption. C'est un gars enfermé à vie, là, t'sais, c'est ça. Mais dans le film de Kubrick, et il y a une finalité, tu sais, il n'y a pas cette ouverture-là, puis ça rend ça beaucoup plus glauque. En fait,
Ouais.
ça met l'emphase sur le côté glauque global de l'histoire, versus comme cette ouverture-là qui est possible d'avoir, tu sais.
Ouais, c'est
Mais
rédemption ou non rédemption dans le fond.
c'est ça, exact. Cette finalité-là est comme très crue à l'image du reste. Je trouve que c'est bien, mettons, pour un film, mais comme ça reste meilleur dans le livre, mettons. Même si je suis comme un gros, gros fan de Clockwork Orange, là, du film, là, tu sais, mettons. Juste de même, là, moi, si je peux prendre cette tribune-là pour parler du côté technique de ce film-là. Si vous vous demandez c'est quoi un film parfait du point de vue de réalisation, d'éclairage, de son, de juxtaposition de son sur des images, Clockwork Orange.
Ah,
J'ai, moi
vraiment?
aussi, je l'ai réécouté cette semaine, j'étais comme. Ça faisait au moins 15, ben pas 15 ans, peut-être 12, 13 ans, je n'avais pas vu le film. Puis ça m'a frappé comme un train, là. J'étais comme, aïe, aïe, Kubrick, c'est un méchant malade, là.
Ben oui, c'est absolument impressionnant. Mais ça, je m'en souvenais de ça. J'ai eu une drôle d'expérience quand je l'ai revu cette semaine parce que oui, je me souvenais de la violence, je me souvenais des plans, je me souvenais de l'histoire, je me souvenais de la couleur, l'univers. Tu sais, on est presque, tu sais, récemment, là, on a vu le film de Substance, on est presque là dans le genre de c'est pas dans le vrai monde, je crée un univers. Tu sais, il y a quelque chose de vraiment unique là, dans le style, dans la couleur, tout ça. Mais je pense que j'avais jamais compris à quel point ce film-là est drôle. C'est weird à dire, là, mais c'est vraiment une comédie. Il y a des scènes qui ont tellement pas de bon sens. C'est ça, j'ai comme l'impression que dans l'esprit tordu. Ben, en fait, c'est pas l'esprit tordu de Kubrick, c'est que j'ai l'impression que Kubrick rend l'esprit du narrateur qui est un adolescent puis qui est tout fun dans la vie puis tu sais fait quand il y a un ménage à trois c'est en accéléré avec une petite musique niaiseuse puis tu sais il y a plein de moments qui sont loufoques tu
Mais
sais
je sais pas si ça allait être d'accord avec moi, mais mettons ce ton-là plus humoristique dans le film, il nous vient un peu du vocabulaire dans le livre, si on veut. Tu sais, ce que je disais, que ça l'atténue certains passages violents, dans le sens où c'est comme un peu, c'est pratiquement burlesque un peu. Tu sais, quand tu le lis, là, c'est comme un peu trop, plus grand que nature, on dirait, de sa façon que c'est raconté. Fait que je trouve ça brillant que Kubrick ait tourné ça un peu vers la comédie, parce que parfois, il y a des passages de ce livre-là que t'es comme, ça fait tellement pas de bon sens, c'est tellement over the top, puis comment que c'est écrit, comment que Alex raconte ça, et c'est comme s'il poussait une petite joke noire, un peu, quasiment, tu sais, c'est comme l'humour très crasse, très cru, mais en même temps, ça fait pas de sens qu'un garçon de 15 ans comme ça vive tout ce qu'il raconte, tu sais.
Mm-hmm. Ouais, je comprends ce que tu veux dire.
Ça démontre justement l'espèce de détachement, de t'sais, l'importance que ça a pour le narrateur, c'est-à-dire aucune. Donc,
c'est ça, ouais. C'est sans vergogne. Il se pose zéro question, il y a zéro remords et c'est comme pleinement assumé tout le temps. Puis c'est ça, c'est, tu te demandes s'il n'invente pas tout ça au fur et à mesure, puis tu es dans sa tête tout seul avec lui, puis il se fait comme un scénario où, comme complètement fucked up, sa 9e symphonie de Beethoven enfermée dans sa chambre. Là, puis je sais pas.
Ouais. C'est vrai, parce que j'ai fait un tour dans l'Angleterre pendant qu'on jasait, je ne l'ai pas regardé du tout, mais tu sais... aussi la sonorité des mots qui sont inventés, tu sais, c'est pas des sonorités tough tant que ça, c'est des petits mots là, je sais pas, tu sais, pour je voulais prendre un mot par exemple de quelque chose qui est assez sérieux, puis tu sais natsat nagoi nidzi nod noga notche, tu sais, c'est comme c'est des mots, c'est vrai que tantôt tu parlais comme un peu poétique là, tu sais.
C'est comme chanter.
C'est pas genre off, là. Ouais, c'est pas des consonnes qui accrochent. C'est ça déchiré. Flotte. Déchiré, c'est je suis pas capable de le dire. Rase-résé, tu sais. On l'a vu beaucoup, ce mot-là, là. Puis j'étais comme quand on est de rase-résé pour déchirer.
Pas trop même des platrusques pour ses. En français, je sais pas c'est quoi en anglais, mais pour son linge, tu sais. C'est comme. C'est tout le temps comme.
Ouais.
C'est plus grand que nature, là, ce qu'il utilise, c'est pratiquement, il est le narrateur opératique, puis ah, écoutez-moi mon histoire, blablabla, tu sais, c'est un...
Ouais, c'est vrai. Des coups, Tolchok, tu sais, c'est comme... Ouais.
Tolchok, ça n'a pas de l'air de faire mal.
Non, c'est ça,
Tolchok. C'est comme une petite claque, là, t'es comme, puis il te raconte ça comme si c'était... Mais t'es capable de t'imaginer, il donne une volée à quelqu'un pareil, là, mais tu le lis puis tu te dis ben ok, c'est comme une petite chansonnette de comme let's go, une bagarre de bar qui fait pas mal là, je sais pas trop.
Ouais, c'est vrai que ça a l'air un peu amitouflé là.
Ouais, c'est ça.
C'est vraiment intéressant de le regarder de ce sens là en tout cas, puis il y en a beaucoup des mots là, mais c'est vrai qu'il y a comme pas des, puis même les mots qui commencent par K là, tu sais, sont comme, je sais pas, il y a rien de qui fait aussi mal que le mot original.
Ouais, c'est ça.
Kishka des tripes.
Kishka. Les Kishka sortent du corps. Tu sais, je sais pas, t'as peut-être une phrase, une bonne phrase, juste pour donner un exemple aux gens, là. Mais tu sais, comme il y a souvent des phrases qui ont deux, trois mots qu'on comprend pas, là. Puis ça sonne tranquille. Ah oui, des vieux dedans dehors, ça aussi.
Ah oh, ouais, là, ça, hey.
Mais ça, c'est très d'imagier, hein, des dehors, dehors.
Tu sais, c'est comme un adolescent qui a déjà fait du sexe, mais qui comprend pas trop ce que c'est vraiment, tu sais. Le bon vieux dedans dehors. C'est tellement dégueu, dit comme ça quand même, par exemple, tu sais. Je sais pas.
C'est hilarant.
Ouais. Mais tu sais, ce côté comédique, là, un peu, tu sais, ça nous vient vraiment de l'écriture, je pense que... Puis c'est ça. Kubrick a bien cerné le livre, je pense, pour nous le faire de cette façon-là.
Mm-hmm. Absolument. Absolument. Moi, il y a un petit truc que je vous écoutais parler tantôt, là, puis un petit truc sur lequel j'ai comme envie de revenir. Je réfléchissais, là, puis je me disais au début, donc, ils sont quatre, Alex et le chef, tu sais,
Autoproclamé.
Ouais, tu sais, quand t'es ado, puis t'as des amis, puis tu te prends pour le personnage principal, puis t'es le chef de la gang. Moi, j'ai bien la misère à comprendre ça. Mais bref, t'es comme, c'est le chef de la gang. Et là, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec le fait que c'est le chef de la gang. Fait que là, il y a comme une espèce de mutinerie qui s'essaye, mais finalement, ça échoue parce que Alex décide de couper, puis de frapper tout le monde qui veut se rebeller. Et il redevient donc le chef, ce qui va éventuellement causer sa perte. Là, je suis comme, on dirait une petite guéguerre qui va refléter ce qui se passe en politique à l'arrière-scène. Tu sais, il y a comme quelqu'un qui va vouloir renverser la puissance instaurée, mais finalement, il va blesser tout le monde en faisant jouer la musique puis en poussant Alex au suicide, mais finalement, bon, Alex va survivre, puis il va être guéri. Mais après ça, il y a le ministre, ça c'était très drôle aussi, là, le ministre de l'Inférieur,
oui.
Qui vient réparer ses gaffes, puis être ami avec, puis là, donc le pouvoir qui est en place va rester en place à cause de cet événement-là. Fait que tu sais, il y avait comme un espèce de miroir que je trouvais assez intéressant. Puis, c'est ça, Horror Show. Moi, lire Horror Show, mais j'ai essayé de le trouver en français, c'était quoi, mais je ne l'ai pas trouvé. S'il y a quelqu'un qui peut, qui sait...
Non, on dirait que je ne replace pas.
Non, moi non.
Ça revient souvent, mais en français, on dirait qu'on ne l'a pas.
Ah oui, ça revient vraiment souvent. Mais peut-être qu'il ne l'a pas, peut-être qu'il l'a traduit autrement. J'ai l'impression qu'il a quand même pris pas mal de liberté là, dans sa traduction. Fait que...
Ça me donne le goût de le lire en anglais, honnêtement, quand tu me parles de même. Là.
J'ai trouvé ça vraiment très bon. Puis, ah oui, il y a une dernière comparaison que je voulais faire, c'est avec... Moi, j'avais jamais lu le livre Catcher in the Rye, je pense que c'est L'attrape-cœur en français, de Salinger. Puis, je l'ai lu récemment, puis en lisant L'Orange mécanique, je trouvais que ça me faisait beaucoup penser à Catcher in the Rye, qui n'est pas du tout dans la violence ou dans les excès comme ça, mais j'ai vraiment l'impression que l'auteur s'est inspiré de Catcher in the Rye juste à cause du vocabulaire, justement. Il a son vocabulaire à lui. C'est un jeune là, qu'on va suivre. Il veut se rebeller contre le monde. Finalement, il se rebelle contre pas grand-chose, mais il essaie de se détacher. Puis pour lui, tout le monde, c'est des phonies. Puis là, il a vraiment son vocabulaire puis son espèce de pas routine, mais sa façon de formuler des phrases qui revient vraiment, vraiment beaucoup, puis ses expressions qui reviennent souvent. Fait que j'avais vraiment l'impression, puis ça te met vraiment dans la tête. C'est pas un livre que j'ai aimé personnellement, mais il y a cette qualité-là de te mettre dans la tête d'un adolescent. Mm-hmm. Puis c'est un peu ça qui est répété ici dans L'Orange mécanique.
Le seul mot, tu disais que c'est horror show, c'était bon, ça voulait dire?
Oui.
Le seul mot que ça dit qui est bon, c'est Dobby, D-O-B-B-Y. Mm-hmm. Ça dit, la définition, c'est bon.
Mais c'est peut-être ça, mais je trouve ça un peu plate.
Ouais, ça n'a pas la même signification que
horror.
Ouais.
C'est Dobby.
Mais en fait,
moi, son expression des familles aussi, j'aimais ça. Là. Ce bon vieux Moloko des familles. Tout est à des familles, tu sais, comme il y a je sais pas. Ça veut rien dire, là. Mais c'est partout.
C'est vrai.
Du Moloko pour des familles, tu sais. Le lait dans le frigidaire. Ou ça.
Mais non, mais là, on fait juste en reparler, puis je sais pas. C'est pas mon livre préféré de l'année, mais j'ai vraiment aimé l'expérience. Puis là, plus qu'on en parle, plus je suis comme, ah oui, mais là, j'ai envie de plonger dans le glossaire, puis de me familiariser peut-être un peu plus avec.
C'est le genre de livre que je vais acheter en anglais, moi, pour avoir chez nous, mettons, là, pour vous donner une idée. Là, c'est quelque chose que je vais revisiter, là, sûrement.
À côté de Crash.
Ben oui, c'est ça que j'ai en tête un peu. C'est le même genre de truc. Ça me donne. Tu sais, ça met. Ça, comment je te dirais ça? Je manque de mots à matin. Là. Je vais y repenser. Ouais, non, mais c'est ça, mais c'est parce qu'il y a un petit mot qui décrit exactement comment je me sens quand. Uneasy en anglais. sais, ça me met, ça me soulève, ça me fait réagir. Tu sais, je suis comme, ah oh ouais, OK, puis là, c'est ça, c'est un page-turner, tu sais, j'aime vraiment ça, ce genre de truc-là. Crash, ça m'avait fait la même chose à chaque fois que je le lis. Pour ça, c'est le genre de truc que je veux sur des tablettes et non genre des livres que tu regardes et tu te dis pourquoi j'ai gardé ça, tu sais.
Ben ouais.
Pulsion ou quelque chose, tu sais.
Mais
c'est un autre sujet, ça.
Je te l'ai déjà dit, Jean-François, mais j'insiste, tu dois lire Inhumaine de Philippe Claudel. C'est un livre pour toi.
Ouais. Mais là, à la bibliothèque, ils ont ma réservation de Tout est Ori.
Oh!
Donc, là, je lis ça dans la prochaine semaine.
Moi, il faudrait que je lise ça aussi, là.
J'ai très hâte, en fait. Ça faisait comme 2 mois que je l'avais réservé. Fait que la personne a dû trouver ça dur à lire parce qu'elle l'a gardé longtemps.
Tu vérifieras s'il est bien collé.
Rendu à page 4, les pages 6, finalement. Oh.
Tout théorie, c'est une expérience de
incroyable.
Fluide.
Ouais.
Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai hâte de voir. Pour l'instant, je pense que les derniers livres ont été plutôt dans la table de Jeff. Mais ce qui s'en vient, tu sais, Machinop, tout ça, on s'en va un peu ailleurs quand même. Mm-hmm. Puis même peut-être le liseur, là, cet été. Il est encore là? Oui, il
oui.
est là encore.
Oui.
Fait que j'ai hâte de voir là, si ça va rester dans sa table ou ça va plus tomber dans la mienne.
Ouais, c'est ça. C'est qui préfère. Mais là, je pense que le prochain, c'est Casino Royale, c'est ça?
Oui.
Yes.
Moi, j'étais un gros fan de James Bond.
Fait que je suis vraiment curieux. Ça va être intéressant de voir la naissance de ce mythe-là, mais là, je l'annonce déjà tout de suite, là, et comme ça, ce sera fait. Mais effectivement, on se retrouve le mois prochain pour parler de Casino Royale de Ian Fleming, donc la première aventure, la naissance du mythe de James Bond. Mmh. Et on va avoir un invité que je suis bien content de retrouver. Qui est un expert québécois de James Bond. Il a tout vu, il a tout lu, il a tout analysé. Donc, j'ai pas hâte de jaser avec lui. C'est Laurent de Champlain. Et c'est ça. Donc, ça va se passer le mois prochain. Donc, j'ai fait ma petite annonce déjà. C'est terminé. Je pense qu'on a terminé de parler d'Orange Mécanique. On a naturellement, organiquement, passé à autre chose. Donc, maintenant, c'est l'heure des recommandations culturelles. Jean-François, qu'est-ce que tu nous suggères?
J'ai lu, ça faisait au-dessus d'un an que je l'avais acheté, j'ai lu La mort en héritage de Simon Predge.
Ah oui!
Dans le fond, Simon qui a eu plusieurs podcasts, lui, entre autres, il y avait Les Oubliettes dans le temps. Et il y a Ars Moriendi aussi, qui est un podcast true crime un peu, où est-ce qu'il va raconter des histoires sordides, historiquement, mettons, des meurtres qui ont eu lieu. Dans le fond, dans ce recueil-là, c'est les meurtres en milieu familial. Donc, c'est des histoires qui n'ont vraiment pas de bon sens puis qui sont arrivées pour vrai. T'sais. Puis ça, que ce soit plus moderne ou vraiment des histoires dans les années comme 1500, 1600, il y a vraiment une variété d'histoires qui sont le fun à découvrir. Il nous décrit ça un peu documentaire style en mettant au travers ses pensées. T'sais, il y a vraiment son opinion au travers un peu d'une description. Fait que ça fait comme un peu romancé, si on veut. Il y a son take à lui au travers de tout ça, tu sais. Puis il y a vraiment un range très large de meurtres sordides, là, tu sais, du monde qui pète leur famille à coups de hache pour aucune raison. C'est vraiment très glauque, puis c'est un peu ça le concept. Là. Il y en a sorti un deuxième, c'est la mort par ordonnance, puis c'est en milieu hospitalier. Mmh. J'ai très hâte de le lire, je l'ai ici. Mais honnêtement, je le recommande fortement. Simon, qui est une banque infinie d'informations comme ça. C'est un maniaque qui est minutieux dans sa quête et sa recherche d'informations. C'est tout le temps intéressant de voir comment il... Tu sais, il y a une plume quand même relativement... Ben c'est très accessible, en fait. C'est simple, il nous simplifie tout ça, mais c'est comme bien ficelé, tout ça. Il y a peut-être une ou deux histoires qui prennent trop place dans le sens où c'est peut-être étiré un peu. Mais globalement, ça se lit super bien. Là, c'est comme une quinzaine de chapitres. Fait que une vingtaine de pages chaque, tu défiles ça rapidement. T'sais. Fait que non. Puis si vous êtes maniaque de True Crime, ben Ars Moriendi, qui est un excellent podcast aussi, avec plusieurs. Il y a des invités spéciaux qui incarnent les personnages pour lui. Fait que c'est comme un petit peu avec un fond musical. Là, c'est, t'écoutes ça dans le noir avec une petite chandelle. Là, puis ça fait peur, mettons.
J'ai pas besoin de ça, je pense. Non, c'est...
Mais ouais, c'est vraiment le fun.
Ben, merci. Maps, qu'est-ce que tu nous suggères?
Ben, Sylvain, ça va être une recommandation commune aujourd'hui de toi puis moi, parce que c'est quelque chose que l'on a vu séparément. Je vais parler de la comédie musicale Belmont.
Oh oui!
Sur la vie de Diane Dufresne. Donc, moi, je l'ai vu au début du mois de mars, mais on ne s'est pas parlé depuis. On est rendu, ouais, c'est ça, on est 30 mars aujourd'hui. Donc, c'est ça, la comédie musicale sur la vie de Diane Dufresne, c'est un pan spécifique de sa vie quand même. Il y a 6 artistes sur scène. 5 d'entre elles sont des femmes qui représentent différentes époques, différents moments de sa vie et de ses chansons. Donc, Diane l'enfant, Diane l'amoureuse, Diane la diva, Diane la folle, Diane l'artiste. Et il y a un homme qui représente un petit peu le clown au travers de ça, puis qui fait le pont au travers des époques de Diane Dufresne. Moi, c'est une chanteuse que je connais un petit peu, mais tu sais, c'est pas de mon époque, là, forcément. Fait que je suis allée avec ma maman qui connaissait toutes les chansons et qui l'a vue en spectacle, genre, l'année passée, à un âge vénérable, et qui chantait encore toutes ses chansons avec du texte et tout. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est très... créatif aussi comme processus. Dans ma tête, je trouvais ça très montréalais. c'est la manière de le présenter. Tu sais, comme il y a des moments que tu n'es pas certain de comprendre qu'est-ce qui se passe, mais comme il faut juste que tu te laisses aller dans l'organisation, dans la création de cette œuvre-là. Les voix sont belles. Moi, mes préférées, c'était la diva et la folle. Là, je me mélange tout le temps entre les deux, mais la diva, elle a vraiment un teint de voix, un grain de voix qui ressemble à celui de Diane Dufresne. Lorsqu'elle faisait là, ses petites stépettes vocales, j'étais comme « Oh my God, j'aime au bout de ça ». Puis la folle, c'était mon coup de cœur assuré. Elle a un petit peu un look de Anne-Marie Cadieux, là, celle qui fait la folle. Puis, elle se déhanche à un moment donné, là, j'étais comme, ça n'a aucun bon sens, comment elle était bonne, comment elle était incarnée. Alors, voilà ma recommandation. Je ne sais pas s'il reste beaucoup de représentations, mais juste pour l'expérience, même si vous n'êtes pas quelqu'un qui connaissait l'œuvre entière de Diane Dufresne, je pense que ça vaut complètement la peine. Puis, pour voir l'amoureuse qui en braille dans sa chanson, où j'étais assise comme à la troisième rangée, puis je voyais ses vraies larmes, c'est incroyable.
Ah oui, c'est un show exceptionnel. Je t'avais dit en partant, hein, quand je suis revenu de la pièce, j'ai dit, c'est quand même plus abstrait là, comme pièce. Mm-hmm. Puis en fait, c'est que oui, ça revisite la vie de Diane Dufresne, mais ça revisite surtout des états d'esprit plus que des événements. T'sais. Donc, c'est ça. Moi, j'ai capoté sur ce show-là. Tu parles de la diva qui est interprétée par Catherine Sénard, qui est... extraordinaire, oui. Extraordinaire. Moi, j'ai eu un certain attachement pour... j'ai oublié son nom, là, mais celle qui joue l'enfant, qui est en fait la, ironiquement jouée par la plus âgée de femme sur scène. Là. Elle a un petit quelque chose d'innocent, de beau, de vraiment particulier. Puis c'est ça, c'est vraiment un spectacle à voir. Ça donne envie de créer, ça donne envie de s'exprimer, ça donne envie d'explorer aussi la carrière de Diane Dufresne, que moi non plus, je veux dire, je la connaissais, c'est sûr, là, je connaissais quelques chansons, je sais c'est qui, tout ça, mais tu sais, je connais pas son répertoire tant que ça. Fait que,
j'irai puis voir. Puis on a passé vite sur le clown, là, Pierre-Olivier Grondin. Il est fantastique. Et tout le long, comme il est bon, tu sais, puis tourne autour des femmes, tu sais, il joue pas nécessairement la symbiose, mais il fait comme le lien un petit peu entre les différents moments, les différents états d'esprit, mais il y a comme sa chanson à la fin, là, puis je vous dirais que c'est à ce moment que je me suis dit, pourquoi il y a des gens qui ont autant de talent, puis que moi, j'en ai vraiment pas tant que ça.
Ouais, c'est un peu crève-cœur.
Jalousie au tapis, puis c'est ça, il va revenir dans la comédie musicale We Will Rock You, fait que c'est sûr qu'il va être excellent.
Je vais voir ça, puis moi, il y a un moment qui m'a vraiment marqué de lui, qui est pas la... Ben oui, ça, évidemment, sa chanson, c'était vraiment très bien, mais il y a le moment où, tu sais, quand les musiciennes viennent sur la scène, puis il y a une espèce de moment de folie, là, qui est comme complètement fou, presque hystérique, mais oui. Qui est comme... Mais ils se donnent, là. Ils se donnent, ils se lâchent, puis tu sais, c'est vraiment un moment d'abandon sur scène comme peu. Puis vraiment, là, j'étais vraiment impressionné. C'est une pièce excellente. Ben écoute, merci Marc de me donner l'occasion d'en reparler. Ça avait déjà été une de mes recommandations dans le passé.
Donc, c'est ça que je me disais.
Je suis très content d'en reparler. Puis moi, ben rapidement, je vais essayer de faire ça rapidement. J'ai deux pièces à vous recommander. La première, ça s'appelle Monsieur Burns, une pièce post-électrique. Je suis allé voir ça au Prospero. Ça joue là, jusqu'au mois d'avril et ça va être, je ne sais pas, j'ose espérer que ça va se promener au Québec après ça. C'est une pièce unique. Je n'ai pas vu grand-chose qui ressemblait à ça dans ma vie. C'est donc post-apocalyptique. Ça commence avec un petit groupe de survivants autour d'un feu qui essayent de se souvenir d'un épisode des Simpsons. Et après, ce groupe-là, ça va évoluer. Il y a des bonds dans le temps. Là. On va voir le monde plusieurs années plus tard quand ce groupe-là va essayer de faire une pièce de théâtre des souvenirs qu'ils ont. Puis l'or devient une monnaie d'échange. Puis ça devient... Je n'ai pas lu encore Station Eleven, mais ça me fait un peu penser à la petite troupe de théâtre qui se promène, tout ça. Et puis, éventuellement, ça va devenir épique, mais genre épique, beaucoup trop pour ce que les Simpsons représentent pour nous. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment on se rattache à la culture. Il y a un petit aspect un peu drôle, il y a un petit aspect un peu... actuel de se dire qu'on est vraiment attaché à la culture américaine. À un moment, on essaie de s'en séparer. Donc, il y a tout ça là. Il y a tout ça qui se passe en même temps. Je ne pense pas que c'était voulu, mais la pièce se passe en ce moment. Puis dans le monde, il se passe ça. Fait que nécessairement, ça nous fait réfléchir à ça aussi. Puis c'est ça. Donc, si vous aimez Les Simpsons, une pièce à voir. Si vous n'aimez pas Les Simpsons, je pense que vous allez quand même avoir beaucoup de plaisir. C'est une comédie noire. C'est vraiment particulier, c'est à voir, c'est vraiment à voir. Je le recommande fortement. C'était en présentation au Prospero, il y a eu des supplémentaires, ça marche vraiment bien comme spectacle. Donc, j'ose espérer, comme je disais, que ça se promène un peu partout au Québec. Et l'autre recommandation que j'ai, je sais, c'est un petit peu loin, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir le voir, mais c'est la pièce Cabaret qui est présentée à Toronto. Je suis allé voir ça. J'étais dans un moment de grande déprime et de grande noirceur. Puis j'ai vu que ma pièce préférée était montée à Toronto. Donc, je me suis dit, hey, me paye le trip, m'envoie à Toronto voir la pièce. Et Cabaret, en fait, oui, je recommande cette mouture-là. Je pense que de toutes les éditions que j'ai vues, c'est pas celle où il y a le plus de budget, mais c'est celle où j'ai préféré ce qu'ils ont fait avec la pièce. J'ai préféré les choix qu'ils ont fait dans cette pièce-là, sauf quelques-uns, là, c'est sûr. Tu sais, tout n'est pas fait pour moi, mais c'est ça. C'est vraiment une très bonne pièce. Mais au-delà de cette présentation-là, je pense que Cabaret, en général, c'est une pièce qui doit être montée, c'est une pièce qu'on doit voir. Et surtout en ce moment, là, c'est une pièce sur des personnages qui essayent de vivre leur vie, qui ont du fun dans la vie, qui essayent de pas trop se soucier de la politique. Mais, oups, on est à Berlin dans les années... en 1930. Mm. Et, les nazis arrivent, puis on s'en soucie pas trop. On se dit, ben c'est un parti politique. Puis moi, j'aime pas ça, la politique, je pense pas à ça. Mais, oups, ça vient nous jouer, ça vient nous jouer dans le dos. Donc, c'est ça. C'est une pièce absolument importante, mais au-delà de l'importance, au-delà du message, les tunes sont bonnes. Les personnages sont le fun. C'est juste une bonne pièce sur tous les niveaux. Donc, j'espère qu'elle sera... Elle est encore à Toronto si vous avez la chance d'y aller. Je sais que c'est c'est un peu compliqué là, pour ceux qui nous écoutent de se rendre à Toronto. Mais si vous avez la chance d'aller la voir, allez-y la voir. Je pense que c'est la meilleure version que j'ai vue. Ceci étant dit, je suis peut-être un peu biaisé parce que c'est le moment historique aussi de voir cette pièce-là qui fait en sorte que ça me touche particulièrement. Mais c'est un grand cri du cœur que je lance. Montons cabaret à Montréal, que ce soit en anglais ou en français, que, à Montréal ou au Québec, là, montons cabaret, propageons ce message-là. C'est vraiment une pièce importante. Et parce que je suis particulièrement touché par ce message-là, je peux l'annoncer. Maintenant, au printemps, au Club des Mantis, on va lire sur le casino, on va visiter le casino. Mais à l'été, on va revisiter donc la Deuxième Guerre mondiale sous différents aspects. En juillet, on va lire Adieu à Berlin, qui est le livre qui a inspiré la pièce Cabaret. Et ensuite, on va lire La Nuit de Elie Wiesel. Je vais apprendre à dire son nom, puis à l'épisode, je vais le dire comme il faut, qui est un réel survivant de l'Holocauste. Donc, il raconte son histoire. Donc, c'est avant, pendant et après la Deuxième Guerre mondiale avec le Liseur en septembre. Donc, on va lire ça. C'est le thème que j'ai choisi. J'espère que rendu à cet été, on va être encore en liberté et heureux de vivre, qu'on ne sera pas en train de vivre nous-mêmes une guerre mondiale. Mais d'ici là, c'est le thème que j'ai choisi. On va espérer qu'on sera encore d'humeur à lire là-dessus. Et donc, c'est ça. J'avais-tu d'autres choses à dire? Je voulais dire que Cabaret, c'est une pièce importante. Et le petit mot que je voudrais ajouter par rapport à ça, c'est que oui, le film, il est excellent. Le film est vraiment très bon, mais le film est vraiment différent de la pièce. Et je pense que, donc, tu sais, il ne me sustente pas comme la pièce. Je pense, par exemple, à Chicago, qui est une comédie musicale que j'adore. Si Chicago n'est pas monté sur scène, je vais le voir cet été avec toi, Maps, puis j'ai bien hâte de voir ça. Mais si ce n'est pas sur scène en ce moment, ben, je peux toujours regarder le film. Ce n'est pas comme voir le spectacle sur scène, mais ça me sustente un peu, tu sais. Alors que Cabaret, le film est tellement différent que ça ne me donne pas du tout la même satisfaction que de voir la pièce. Donc, la pièce est importante, puis à remonter, s'il vous plaît, monter cette pièce. Alors, on se retrouve.
Un petit message à Serge Denoncourt pour qu'il nous fasse ça.
Serge Denoncourt, moi, je pense que notre idole, Kevin Hull, je pense qu'il n'a pas de parents. Je pense qu'il a été généré dans un laboratoire pour jouer le rôle du MC dans Cabaret. C'est ma théorie. Je comprends pas comment ça se fait que ça s'est pas passé encore. Mais, mais bref, faites ça. Faut que ça se passe. Puis en plus, Serge Denoncourt qui avait monté Hair, qui est une comédie musicale, qui se passe pendant une guerre. Tu sais, il y a des liens, là. Faut faire quelque chose avec ça.
Avec un cast queer, avec...
Oui!
C'était délicieux.
Cabaret est extrêmement queer, tu sais. Donc, faut faire ça. Bref, OK, assez de déplatérer sur une vieille pièce. Mais je vous remercie d'avoir été là. Merci d'avoir été là, Maps et Jean-François.
Merci.
On se retrouve le mois prochain pour parler de Casino Royale et de James Bond. Mm.